Radio Campus.
Radio Campus Orléans, 88.3 FM.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'émission Écoute ta fac sur Radio Campus Orléans. Il est midi et aujourd'hui, j'espère que vous êtes toutes et tous prêts à passer l'heure en notre compagnie. J'ai avec moi autour de cette table des invités et des chroniqueurs qui nous ont préparé plein de sujets. J'espère que vous êtes attentifs parce que ça va être une émission qui va vous faire apprendre plein de choses, que ce soit des sujets d'actualité, des sujets d'interview ou bien des jeux, vous allez être servis. Autour de cette table, j'ai avec moi Antoine qui nous parlera d'actualité brûlante avec des cas de violence des supporters de football récemment aperçus ces derniers jours dans les stades. De mon côté, je vous parlerai des violences non pas dans le milieu sportif mais au sein de l'église sur les cas d'agression sexuelle. Chris, lui, nous apportera un peu de légèreté et de gourmandise avec sa chronique sur l'engouement des Français sur la pâtisserie. Nous aurons le plaisir de vous faire découvrir le théâtre d'improvisation Fabrique à Pulsion. Donc Xavier, qui est ici sur le plateau, en fait partie. Ensuite, comme d'habitude, tous les jeudis, nous aurons le jeu de Nico pour faire agrandir votre discographie. Et enfin, pour clôturer, il sera temps, à la fin de cette émission, de vous faire partager les recommandations de la semaine par nous tous. Mais avant la roco, une grande programmation vous attend. Et pour commencer cette émission, Antoine nous partage les dernières informations concernant les violences qui ont été recensées dans les stades de football ces derniers jours. Dis-nous en plus, Antoine.
Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la violence qui se répand de plus en plus dans le monde du football, que ce soit dans les stades ou en dehors. Donc le dernier exemple en date de pas plus tard que lundi soir. La rencontre a été tendue entre les clubs turcs de foot d'Ankara et de Rize avec un carton rouge de chaque côté. Au coup de sifflet final, le président du club d'Ankara n'accepte pas l'égalisation dans le temps additionnel de son équipe. Il descend alors sur la pelouse et frappe violemment l'arbitre en lui adressant un coup de poing à la joue. L'arbitre s'effondre, se met en boule pour se protéger des coups de pied qui lui sont assénés par d'autres joueurs du club. Le visage tuméfié, l'arbitre de 37 ans sort protégé par la police et le diagnostic tombe quelques heures plus tard. L'arbitre souffle d'une fracture et de la joue et d'une commotion cérébrale. Des sanctions et des mesures ont été prises tout de suite après le coup de sifflet final. Le président du club a directement été placé en détention et le président de la fédération de foot turque a annoncé l'arrêt immédiat de tous les matchs jusqu'à nouvel ordre. Donc cette agression montre que la violence dans le foot monte depuis plusieurs années en Europe, mais aussi en France. Depuis le début de la reprise de la Ligue 1 en septembre dernier, plusieurs incidents majeurs sont survenus, même voire malheureux, comme des meurtres. Lors de la rencontre entre Nantes et Nice samedi dernier, la soirée a viré à la tragédie. En effet, le procureur de la République de Nantes a confirmé un peu plus d'une heure et demie après la fin du match qu'un supporter nantais était malheureusement décédé. Cet ultra membre depuis plusieurs années de la Brigade de la Loire, le principal groupe nantais, a été poignardé avant le match, vraisemblablement par un chauffeur VTC qui le transportait jusqu'au stade. Quelques semaines auparavant, des incidents moins graves, heureusement, avaient conduit à reporter le match de l'Olympico entre Marseille et Lyon. Donc peu de temps avant l'arrivée des joueurs lyonnais au stade, des pseudo-supporters marseillais ont eu la bonne idée de caillasser le bus des joueurs lyonnais et de leurs supporters. Résultat des courses, l'entraîneur de l'équipe, Fabio Grosso, doit être soigné en urgence et finira avec 12 points de suture au visage à cause des éclats de verre dus aux éclatements des vitres du bus. Pour les supporters lyonnais, leur bus a dû être escorté par la police car il a été pris à partie par encore ces pseudo-supporters. Le match a finalement été annulé par décision de la Ligue, privant ainsi des milliers de supporters et de familles d'assister au match à cause d'une poignée de pseudo-supporters pour rester poli. Outre ces excès de violence qui deviennent de plus en plus fréquents, on remarque aussi une montée des insultes à caractère homophobe et raciste dans l'enceinte même des stades. En France, on peut parler des chants homophobes qui avaient été scandés pendant un match qui opposait le Paris Saint-Germain à Marseille il y a quelques mois. Mais ce cas de figure n'arrive pas qu'en France, malheureusement. On peut notamment penser à Dani Alves ou encore Mario Balotelli qui se sont vus jeter, eux, des pots de bananes et des bananes sur eux pendant des matchs, que ce soit en Espagne ou même en Italie. Le championnat italien, lui, fait souvent la une de la presse européenne à cause d'insultes racistes entendues dans les stades. La Serie A a encore vu son image entachée par plusieurs épisodes de racisme cette saison. Samuel Umtiti, qui sortira même en larmes de la pelouse pendant un match, Victor Osimhen, Yann Caramo, Moïse Keane ou encore dernièrement Raphaël Leao. Ces événements arrivent depuis plusieurs années en Italie. Pour essayer de contrer ce phénomène, la fédération italienne a lancé plusieurs campagnes de sensibilisation, mais aucun résultat concret n'est apparu. Plusieurs entraîneurs et joueurs ont même remis en doute la volonté de la fédération à combattre le racisme. Stefano Poli, le coach du Milan, a même déclaré « Quand est-ce qu'on prendra vraiment ce sujet au sérieux ? De véritables actions doivent être nécessaires. » Donc un des rares pays qui a été épargné par ces scandales est l'Angleterre. En effet, la fédération anglaise a pris des mesures simples mais fortes pour endiguer ce phénomène de violence, qu'elle soit physique ou verbale dans les stades. Le pays a longtemps été pointé du doigt à cause notamment du mouvement des hooligans. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ou pas, Chris ?
Les hooligans ?
Ouais.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Bon, c'est connu, mais il faut s'y intéresser. Donc, pour faire simple, un hooligan est un adepte d'un sport qui utilise la violence pour peser sur le sort d'une rencontre. Donc, l'exemple le plus marquant de l'histoire du football qui concerne les hooligans est malheureusement le drame du Heysel. Ce match opposait Liverpool à la Juventus. Donc, pendant le match, une centaine d'Anglais envahit la tribune des Italiens qui se trouve juste à côté. Sous la poussée, les supporters italiens qui n'ont pas l'habitude de ces pratiques reculent et se replient vers l'autre extrémité de la tribune, causant une énorme bousculade. En bas des gradins, des portes donnant accès à la pelouse sont restées fermées par la police. Et donc les forces de police présentes sur la pelouse repoussent même des spectateurs qui tentent de fuir par la pelouse. Les grilles de séparation et un muret s'effondrent, des dizaines de personnes sont piétinées et le bilan est lourd. 39 morts, dont 32 Italiens, 4 Belges, 2 Français et 1 Nord-Irlandais. Depuis ce drame, la fédération anglaise a décidé de lancer une chasse aux hooligans avec des mesures simples mais très efficaces. Tout d'abord, le prix des billets a explosé en Angleterre et on tourne maintenant aux alentours des 200 euros pour une place, alors qu'en France, on table plutôt entre 30 et 80 euros entrée de gamme. Enfin, les supporters qui sont surpris à commettre des actes violents ou même à chanter des chants racistes ou homophobes sont tout simplement exclus du stade pendant des années, voire à vie. Donc ces mesures ont endigué la montée de la violence et du racisme dans les stades de foot anglais et la France devrait peut-être prendre exemple sur eux. Pour moi, un match de foot doit rester un moment convivial et un moment de fête, mais on ne doit pas laisser la place à de tels comportements dans un stade, surtout quand on sait que des familles et des enfants sont présents.
Merci Antoine pour ta chronique. Je pose la question à toi, mais aussi aux autres chroniqueurs. Est-ce que vous pensez que ces problèmes de montée de la violence, elles peuvent se régler ? Et qui pourrait se montrer responsable de ces agissements ? On voit que la fédération turque de football a pris des mesures, mais est-ce que c'est vraiment son rôle à elle de gérer ces problèmes de violence ?
Tu commences ou... Pour moi, ouais, la fédération a un rôle à jouer. Les clubs aussi ont un rôle à jouer quand on voit, par exemple, le dernier match en date, la Marseille-Lyon, où ça a dû être arrêté. Les clubs avaient pris des mesures, mais la fédération a son rôle à jouer en mettant des sanctions fortes, que ce soit par exemple quand il y a de tels événements, que ce soit là par exemple, pour moi, j'ai beau être supporter marseillais. Pour moi, Marseille aurait dû perdre le match sur tapis vert, donc donner la victoire à Lyon pour les sanctionner du comportement de leurs supporters et montrer qu'aux supporters, ils ont aussi une responsabilité, qu'ils sont là pour supporter, mais qu'il faut faire attention à pas qu'il y ait de débordement et que leurs actes peuvent avoir des conséquences sur leur club.
Donc il y a une conséquence, une responsabilité en tout cas de la fédération même,
ouais,
et du club aussi, et donc aussi des supporters en eux-mêmes. Donc, il y a une
oui, pour moi, tout ce qu'on fait dans un stade doit avoir des conséquences. On doit savoir qu'on a des responsabilités. Quand on vient voir un match de foot, c'est pour passer un bon moment. Je pense que Chris doit être d'accord. Quand on va voir un match de foot, c'est pour passer un bon moment entre amis, en famille, pour faire une fête et pour profiter du moment. On ne doit pas se laisser déborder par les émotions et que quelques individus gâchent la fête à des milliers de supporters.
Oui, moi je trouve ça dramatique de ce côté-là. Hein. On a tous assisté à des matchs de foot où réellement c'est absolument scandaleux de voir de tels actes sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. Mais je pense que c'est un problème global. Il faut vraiment que la FIFA durcisse un peu ses positions dessus. On a entendu la FIFA, hein, rechigner un peu à dénoncer par exemple des actes homophobes, des actes racistes notamment en Italie, et ça c'est un véritable problème.
Ils vont faire juste un clip de sensibilisation, ils vont dire voilà, on a fait quelque chose.
C'est ça, et c'est notamment ça le problème. Pour moi, la FIFA, l'UEFA ou même les fédérations nationales doivent toutes travailler dans ce sens-là pour faire face, endiguer ce problème de Ligue 1. Alors, bon, la FIFA a travaillé, toutes les instances footballistiques ont travaillé notamment sur ce problème d'Oligan. Ils sont beaucoup moins puissants qu'à l'époque. Donc voilà, ça s'améliore. Il y a encore du travail à faire, mais ça va dans le bon sens. Je ne sais pas, Antoine, toi, si tu as vu ce week-end que l'Ajax, ils ont joué avec 3 points sur leur maillot. Non, au lieu d'avoir 3. Les noms, il y avait seulement 3 points.
Ah ouais.
Et je regardais ce matin, justement. Et en fait, c'est pour dénoncer le fait que les joueurs de l'équipe masculine et féminine se sont vus être insultés par des milliers de supporters sur les réseaux sociaux. Et en fait, les 3 points, non seulement ils symbolisent le silence face à cette haine sur les réseaux, mais c'est aussi un moyen de dire aux supporters à ceux qui sont sur les réseaux de dénoncer, en fait, d'appuyer sur ces 3 points et puis de signaler les commentaires injurieux, etc. Et je trouve que c'est une belle initiative. Mine de rien, ça ne changera pas. Ça ne va pas tout changer dans le football.
Malheureusement, quand tu vois les seuls résultats qui ont été probants, c'est les Anglais. Sauf que les Anglais, eux, ça a été simple. Ils ont tapé directement dans le porte-monnaie.
Ouais,
parce que les hooligans viennent quand même d'une certaine catégorie.
Qu'est-ce qu'on fait des Anglais exactement ?
Alors en fait, les Anglais, pendant des années et des années, tu avais des scènes de violence, mais vraiment, tu te dis comment ça peut être possible dans les stades, quoi. Les gens se frappaient littéralement dessus, ça sautait par-dessus les barrières pour aller tabasser les supporters de l'équipe adverse. Il y a eu des morts à la sortie des stades, même, je me demande même si pas dans les stades, ça a déjà arrivé.
Aux alentours, notamment à Liverpool, à Manchester.
Ouais, Liverpool, voilà. Et en fait, les hooligans venaient d'une catégorie sociale où c'était pas, ils n'étaient pas les plus aisés de la population anglaise. Donc du coup, la fédération anglaise a dit, ça va être simple, on va passer les places de 30 livres ou 50 livres à 200 ou 300 livres.
Ce qui est scandaleux.
C'est radical.
Ce qui est absolument scandaleux.
Ce qui est scandaleux, mais quand tu regardes aujourd'hui, quand tu vas dans un match en Angleterre, tu n'as pas un seul débordement. Quand tu regardes en France, sur les bords du terrain, tu as des filets, tu as des stewards,
le problème,
en Angleterre,
c'est que ça stigmatise un petit peu une catégorie sociale.
C'est pour ça que je ne veux pas que ça arrive en France.
Ça gentrifie, en tout cas.
C'est pour ça que moi, je ne veux pas que ça arrive en France, parce que pour moi, on doit y arriver par d'autres mesures. Pour moi, tout le monde doit avoir accès au stade. Après, les Anglais, eux, ils ont choisi cette méthode.
Ouais. Après, pour moi, il y a une particularité, c'est que le foot anglais est extrêmement compétitif. Ils ont des revenus monstrueux. Donc,
oui.
Voilà. On va pas dire que les Anglais sont plus aisés que les autres, mais par exemple, si tu fais cette mesure en Italie, qui va aller dans les stades ? Si tu mets les places à 200 balles, qui va pouvoir y aller ?
Ça va
devenir très compliqué. Aujourd'hui, notamment, le problème il se pose au Paris Saint-Germain. Quand il y avait Messi, quand il y avait Neymar, les prix des places
sont
envolés et très peu de gens ont pu y aller. Et c'est scandaleux. Quelque chose de populaire.
Je dis pas que ce qu'ont fait les Anglais, c'est très bien et qu'il faut
le
faire
partout. Je dis pas ça non plus.
Justement, je dis que moi, vraiment, je veux pas en arriver au point où les Anglais ont dû... Je veux pas que ça arrive, qu'on prenne exemple sur les Anglais là-dessus. Pour moi, on doit trouver d'autres solutions. Les campagnes de sensibilisation, ça va 2 minutes, quoi. La FIFA qui nous fait un clip qui dure 3 minutes en disant stop au racisme, c'est bien, mais au bout d'un moment, faut faire des actions concrètes, genre faut fermer des tribunes, faut sanctionner le club financièrement, lui retirer des points, faut exclure à vie des supporters qui ont ce genre de comportement.
Oui.
Ça doit pas rester un cas isolé. Parce que quand je vois en Angleterre, ils le font, ça. Il y a des supporters qui ont été pris en train de faire des insultes racistes envers un joueur. Dans les 2 semaines qui suivaient, le club a dit on lui retire son abonnement et il sera exclu à vie du stade.
Mais c'est ce qu'il faut.
En France, on fait quoi ? En France, on le cherche, on le sanctionne, il va se prendre 50 sursis, 750 euros d'amende. Et puis on va lui dire allez, mon gars, c'est bon, c'est fini pour toi, tu peux retourner au stade dans 3 semaines.
Il faut que la punition soit au-delà de seulement juste quelques euros, qu'elle soit vraiment.
Faut qu'il y ait des mesures symboliques fortes, retrait de points, sanctions financières et exclusion de stade à vie.
Ouais. En tout cas, merci pour vos réactions et vos avis. Espérons que les problèmes seront vite réglés et que les gens pourront venir dans les stades dans les meilleures conditions qu'ils soient, comme ils se pourraient en Angleterre, tout cas. On espère. On va poursuivre en musique avant de revenir avec un sujet sur le cas des violences sexuelles au sein de l'Église. Que je vous présenterai. À tout de suite.
Et on passe à Shy avec Like It Need sur Radio Campus Orléans.
On est de retour sur l'émission Écoute ta fac. Il est midi 17 et j'aimerais vous poser autour de cette table une question. Voilà, ma question c'est est-ce que vous connaissez les fameux tracts de Gallimard ?
J'en ai entendu parler, mais je ne pourrais pas te dire ce que ça concerne ou ce qu'il y a dedans.
Moi, pas du tout.
Vous ne connaissez
non.
pas ? Eh bien, en fait, c'est des
éclaire-nous.
Des petits livrets blancs qui sont vendus pour 3,49€. Ils font une vingtaine de pages et en fait, ils traitent d'un sujet de société, souvent assez actuel. Eh bien, il y en a un qui est sorti en ce début d'année, en mars 2023. Il a été écrit par Monseigneur Pascal Winzer et il s'intitule « Abus sexuels dans l'Église catholique, des scandales aux réformes ». Mais alors, qui est ce fameux auteur ? Eh bien, ce n'est tout autre que l'archevêque de Poitiers depuis plus de 11 ans. Dans ce tract, Pascal Winzer revendique le fait qu'il ne faut pas changer l'Église en tant que telle, mais son mode d'organisation concernant les cas d'abus sexuels. Un sujet plutôt actuel, étant donné qu'en octobre 2022, 11 évêques ont été mis en cause par les autorités judiciaires ou ecclésiales pour des cas d'abus sexuels ou de pédophilie. On peut prendre le cas du cardinal Jean-Pierre Ricard, qui était archevêque émérite de Bordeaux et qui a reconnu avoir eu un comportement, je cite, répréhensible avec une jeune fille de 14 ans, il y a de cela quelques décennies. Et c'est donc en ce début d'année 2023 que sort le livre de Pascal Winzer, censé apporter une solution à ce problème épineux au sein de l'Église catholique. Pour lui, c'est très simple. L'Église doit se convertir, entendez bien le jeu de mots, pour continuer à garder sa mission principale, celle de servir Dieu. Mais elle ne doit pas changer son identité propre, voilà la nuance apportée par l'archevêque de Poitiers. Pourtant, depuis quelques années déjà, l'Église semble y mettre un peu de sien pour faire évoluer les choses et ne pas entacher trop son image. On note en 2014 la mise en place d'une commission pontificale pour la protection des mineurs, visant à accorder plus d'attention aux enfants. Il y a eu aussi en France la création de la journée mémorielle pour les victimes de violences sexuelles dans l'Église. C'est le troisième vendredi de carême. Il y a aussi la création du Centre pour la protection de l'enfance par l'Université pontificale grégorienne de Rome, et qui est dédié à la prévention des abus contre les mineurs. Très récemment, l'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, a proposé aux victimes de pédocriminalité dans l'Église catholique des réparations financières allant jusqu'à 60 000 euros. Donc tout un tas de mesures dont l'Église catholique affirme fortement son intention de protéger ses fidèles. Le pape François avait même demandé pardon le jeudi 2 mars et appelle l'Église, je cite, à faire preuve de transparence devant les violences sexuelles perpétrées en son sein et à prier pour les victimes. Il souligne aussi que l'Église, je cite, ne doit pas cacher les tragédies des abus, quels qu'ils soient, et qu'elle doit également offrir des espaces sûrs pour écouter les victimes, les accompagner psychologiquement et les protéger, a-t-il dit. Donc des paroles fortes, des promesses fortes, pourtant la réalité ressurgit subitement au moment où on veut le moins. Car en 2021, la commission Sauvé avait recensé plus de 330 000 personnes victimes d'abus sexuels au sein de l'Église catholique entre les années 1950 et 2020. Même au Portugal, les chiffres explosent avec plus de 5 000 abus pour la même période, un pays composé à plus de 80% de catholiques. On pourrait se dire, l'Église catholique, c'est devenu une petite institution. En France, les gens sont en majorité athéistes. L'Église n'a plus d'impact qu'elle avait il y a des dizaines d'années. Bon, certes. En France, depuis la loi de 1901 pour la séparation de l'Église et de l'État, l'Église occupe une place moins importante. Mais rappelons qu'aujourd'hui encore, l'Église catholique, c'est plus d'un milliard deux cent vingt millions de fidèles dans plus de 220 pays. Elle possède des centaines de milliers d'écoles qui sont sous sa tutelle, mais aussi des crèches, des orphelinats, des hôpitaux, vraiment beaucoup de choses. Donc il ne faut pas voir cela à la légère. Pour le prêtre jésuite allemand et théologien Hans Zallner, il remarque que la vie de célibat imposée par les clercs n'est pas réellement le problème de fond, mais plutôt la manière dont cette vie est vécue et dans quelles conditions cette vie peut provoquer des malversations. Il s'est demandé dans son œuvre « Les abus sexuels dans l'Église » si l'Église peut-elle exercer sa responsabilité, je cite, « de porter une voix prophétique et de contribuer à ce que les souffrances passées ne soient plus longtemps refoulées ou que de nouvelles blessures ne soient infligées quand les évêques refusent de rencontrer les victimes ». En effet, l'aspect psychologique est très important et ne doit pas être négligé pour ne pas perpétuer cette omerta qui sévit encore dans certains pays, comme ceux d'Europe de l'Est, par exemple. Alors, l'Église catholique a-t-elle permis de mettre en place des mesures assez fortes concernant les cas d'abus sexuels en son sein ? Eh bien, on peut déjà demander la suspension des fonctions d'hommes et d'église inculpés ou mis en cause, comme le cas qu'on avait précédemment pris, qui était le cardinal Jean-Pierre Ricard. Il a été jugé non coupable pour cause de prescription des faits qui remontent à plus de 35 ans. Un non-lieu parmi tant d'autres cas d'abus sexuels qui ne permettront pas aux victimes de libérer la parole concernant les crimes de l'Église. Voilà. Donc merci à vous de votre écoute. J'espère que vous avez eu l'envie d'acheter ce tract ou que c'est un sujet qui va vous intéresser un peu plus parce qu'il reste encore assez présent depuis quelques années. En tout cas, je vous ai dit qu'il y aurait au fil de l'émission un peu plus de légèreté maintenant. Donc, comme promis, on passera avec la chronique de Chris sur les Français et la pâtisserie après une courte pause. Je vous laisse dans quelques minutes. À tout de suite.
Et sur Radio Campus Orléans, on passe à Bruce Brubaker et son titre By the River. Désolé l'anglais.
Thank you.
On est de retour dans l'émission Écoute ta fac. Il est actuellement midi 27. Et avant de passer à la petite chronique de Chris, on a Antoine qui voulait nous parler d'un film qui t'a fait réagir. Enfin voilà, ça t'a fait réagir au niveau de la chronique que j'ai vue sur les violences sexistes et sexuelles au sein de l'Église. Et tu voulais nous faire partager une petite recommandation avant l'heure.
Ah ouais, voilà, donc c'était ça. En plus, j'avais un deuxième film et du coup, je vais le garder pour la roco culturelle de tout à l'heure. C'est un film qui est disponible sur Netflix et qui est sorti en 2018, qui s'appelle Grâce à Dieu. Donc c'est un film qui retrace l'histoire de l'affaire du père Prénat à Lyon, qui a agressé sexuellement pendant plusieurs années des scouts lors de voyages ou même dans son église à Lyon. Et ça retrace l'histoire des quatre fondateurs de l'association La Parole Libérée à Lyon, qui ont réuni à l'époque plusieurs centaines de personnes qui ont été malheureusement victimes du père Prénat pendant plusieurs années. Et en fait, ce film s'appelle Grâce à Dieu, parce que lors d'une conférence, le cardinal Barbarin a été interrogé sur le père Prénat et il a sorti cette fameuse phrase « Grâce à Dieu, tous les actes sont prescrits ». Et lui a dit qu'il s'était mal exprimé, mais ça a choqué la moitié des journalistes, tous les journalistes qui étaient dans la salle. Et du coup, ce film s'appelle Grâce à Dieu, je pense, à cause de cette phrase. Donc c'est un film qui est disponible sur Netflix, qui dure un peu plus d'une heure et demie, deux heures, mais qui est très intéressant et on se plonge dedans. Il est réalisé par François Ozon, qui était un très bon réalisateur.
D'accord, merci beaucoup Antoine, on vous recommande donc ce film. Et donc on passe à toi Chris, tu vas nous parler donc de l'engouement des Français autour de la pâtisserie. Dis-nous en plus, on est très curieux.
Alors oui, c'est un sujet qui est bien plus délicat, on va dire. Enfin,
délicat.
Délicat, voilà. Ouais. Un peu plus de légèreté, on va dire. Mais enfin, bref. En effet, hier s'est déroulée la grande finale de l'une des émissions phares de la chaîne télévisée M6 qui traite de la pâtisserie. Et je veux bien évidemment parler de la célèbre émission Le Meilleur Pâtissier. Le principe de l'émission est simple. On regroupe 16 candidats, pâtissiers amateurs, qui viennent s'affronter sur des épreuves de pâtisserie. Chaque émission se compose d'une série d'épreuves à réaliser dans un temps imparti. L'épreuve signature, l'épreuve technique, l'épreuve créative et l'épreuve de la carte blanche qui est une épreuve de rattrapage. Certaines épreuves consistent également à tenter de reproduire des recettes traditionnelles ou de chefs pâtissiers invités. À l'issue de chaque émission, le meilleur candidat gagne le tablier bleu du meilleur pâtissier et un autre est éliminé, et cela jusqu'à la finale composée de 3 finalistes. Cette émission, qui a commencé en 2012, a vu hier la saison 12 de l'émission se clôturer avec la grande finale, dans laquelle c'est Julia qui s'est vue être la grande gagnante de la 12e édition au cours d'une très belle et gourmande finale. Pour ceux qui seraient déjà en manque de pâtisserie, rassurez-vous, la 13e saison est déjà en préparation, avec toujours en juré le dorénavant mythique binôme avec la blogueuse Mercotte et le chef Cyril Lignac. D'ailleurs, vous pouvez candidater hein, si vous voulez, c'est en ce moment que ça se passe. Mais alors, d'où vient ce succès, cet engouement des Français pour le monde de la pâtisserie et plus largement pour le monde culinaire avec d'autres grandes émissions qui traitent du sujet, faisant au passage des records d'audience comme Masterchef ou encore Top Chef? Eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon un sondage de l'IFOP en 2018, 74% des Français interrogés déclarent acheter des pâtisseries, dont 12% souvent et 62% de temps en temps. Preuve que la pâtisserie occupe une place privilégiée dans le menu des Français. 66% d'entre eux déclarent par ailleurs acheter leur pâtisserie en boulangerie-pâtisserie, contre 20% en grande ou en moyenne surface. Et 14% des sondés privilégient le fait maison. Et toujours selon le même sondage, et là nous nous en doutions un petit peu, la principale raison de cet engouement, c'est le plaisir que cela procure de déguster une pâtisserie. Pour 88% des Français, c'est le plaisir gustatif qui justifie la décision d'achat de la pâtisserie. Suivi derrière, pour 71% des Français, le plaisir d'en offrir à ses proches, enfants, conjoints, collègues, etc. Si la pâtisserie est de préférence partagée dans des cadres conviviaux, 29% des Français effectuent l'achat de la pâtisserie pour leur faciliter à consommer rapidement. Eh bien, on voit que la pâtisserie est bien rattachée à un moment de plaisir, et cela peu importe son contexte, que ce soit pour un plaisir personnel ou pour le plaisir d'en offrir à autrui. D'ailleurs, j'ai une question pour vous autour de la table. Quelle est votre pâtisserie préférée ?
Tu me prends de court. Le Paris-Brest. Peu consignant.
Moi, j'en ai deux, mais elles se ressemblent énormément. C'est un éclair au chocolat ou une religieuse.
Basique. Ah, bah voilà, très basique.
C'est pareil, mais c'est mes deux pâtisseries préférées.
Voilà. Que le Paris-Brest, il cale bien, lui.
Bon, en tout cas, t'es pas très original, Antoine.
La simplicité
parce
avant
que...
tout.
Pas très original.
En tout cas, sur le podium des pâtisseries préférées des Français, on retrouve à la troisième place le millefeuille. Petite anecdote, on retrouve des traces du millefeuille dès le XVIIe siècle dans l'un des ouvrages de cuisine français de François-Pierre de la Varenne. À la deuxième place du classement, nous trouvons deux grands classiques de la pâtisserie française, et c'est là que je te rejoins, Antoine, l'éclair et la religieuse, dont le goût diffère peu, seule la forme est légèrement différente.
Et en 1, c'est le Paris-Brest.
Et sur le haut du podium, nous retrouvons ex aequo les tartes aux fruits et le fraisier, avec 40% des Français qui la considèrent comme la meilleure pâtisserie.
Ils n'ont pas de goût.
Ce qui fait la force de la France dans ce domaine, c'est surtout la grande liste des chefs pâtissiers français. Comment ne pas parler de Pierre Hermé, de Philippe Contissini, de Nina Métayé et bien d'autres chefs qui brillent dans leur art. Ou encore Cyril Lignac, à ne pas confondre avec un autre grand chef pâtissier, Christophe Michalak. Mais en ce moment, il y en a un qui est bien plus populaire sur les réseaux sociaux que tous les autres. Et c'est bien sûr le controversé grand chef Cédric Rollet, l'ami des stars qui réalise des pâtisseries magnifiques et des trompe-l'œil splendides. Ce qui fait la controverse, ce n'est pas son talent, mais c'est surtout le prix de ses pâtisseries qui sont extrêmement chères, prix justifié ou pas. À titre personnel, je n'ai jamais eu la chance d'en manger une seule, enfin de manger un seul de ces trompe-l'œil, un produit phare de la maison de Cédric Rollet. Alors, je ne me permettrai pas vraiment de juger si c'est justifié ou pas. Cependant, une tarte aux fraises à 80 euros, ça vous tente ou pas ?
Si elle est bonne, pourquoi pas ?
Non, mais à Banette, elle est à 3 euros.
Ça reste cher, quoi.
Bon, j'irais peut-être plutôt à l'artisan boulanger du coin qui la vend à 4 euros plutôt que 80 euros. Mais après, je peux comprendre le concept. Ça dépend la taille de la tarte ?
J'ai vu la tarte, c'est moche.
Eh ben non, pas du tout. C'est vraiment...
C'est une tarte classique.
C'est une tarte classique. Bon, la particularité, c'est que Cédric Rollet est quand même l'un des plus grands chefs pâtissiers français. Ouais. Il surfe un peu sur la vague. Ouais, mais il travaille aussi avec des produits qui sont d'une qualité extrême, d'une fraîcheur extrême aussi. Beaucoup considèrent que le prix est justifié. Parce que justement, il y a toute cette qualité derrière,
oui,
tout
c'est un peu comme les macarons,
son professionnalisme aussi.
Les macarons, la durée.
Alors, les macarons Pierre Hermé, tu vois, ils sont à 2 euros. Ils sont super bons.
Bien sûr.
Il y a des goûts uniques. Lui, il fait juste tarte aux fraises que l'artisan peut faire à 10 euros, lui, il fait à 80 euros.
Non,
Pierre
oui,
Hermé, les macarons litchi rose. Que pas beaucoup de fond, tu vois.
Ça dépend, tu peux revisiter un menu ou un plat traditionnel et le faire avec ta technicité au juste, ton professionnalisme, etc. et ton inventivité.
Oui, puis
aussi
je pense un peu, c'est un peu surfer sur dire voilà, c'est moi Cédric Rollet, donc mes produits sont de bonne qualité,
c'est normal
des
aussi.
Choses, et donc les prix peuvent se justifier par là.
Oui,
par exemple, on voit bien Cédric Rollet sur TikTok ou sur Instagram, il y a des millions de fidèles, de followers. Il est l'ami des stars, énormément de stars viennent travailler avec lui, pâtisser avec lui, donc bien sûr il surfe sur une popularité qui est extrême, et voilà, les prix sont un peu gonflés. Voilà.
Mais la pâtisserie reste quand même un débat franco-français, parce que je ne sais pas si vous savez, mais il n'y a pas de pâtisserie dans le reste du monde.
Les pâtisseries, que je me posais la question hier.
J'ai déjà eu ce genre de discussion et je m'étais déjà renseigné. Et la pâtisserie reste un produit français. Et si vous allez dans d'autres pays, que ce soit en Europe ou même dans le monde, il n'y a pas de magasin de pâtisserie. Ou alors c'est ouvert par des Français. Ah. Mais les autres pays
n'en trouvent pas dans chaque petit village. Quoi. C'est
la pâtisserie est française et ça ne se fait qu'en France.
Après, en Angleterre, on a les cupcakes, etc.
Oui, mais je te parle de vraie pâtisserie.
Voilà, on remercie nos amis anglais.
Et d'ailleurs, on ne t'a pas posé la question, mais c'est quoi ta pâtisserie préférée ?
Ouais, alors pour ma part, Ah, bonne question.
La colle.
moi, je pense que ça serait une tarte aux fruits, hein, une fruit de la passion, etc.
Tarte aux fruits de la passion. Convient.
Quelque chose de plus léger.
Voilà.
Et après, c'est moi qui n'ai pas original.
En tout cas, merci Chris. Espérons que cette chronique ne vous aura pas trop donné l'eau à la bouche. Si vous nous écoutez, en tout cas l'équipe d'Écoute Ta Fake vous conseille de ne pas trop abuser de sucre pour votre santé.
Avec modération.
Si je suis d'accord, oui. ça donne envie en tout cas toutes ces pâtisseries.
Surtout
on va poursuivre cette émission en musique avant de vous parler du théâtre d'improvisation Fabrique à Pulsion. À tout de suite.
Et ce sera avec le tube Io de Peter Kernel.
Bien sûr, Écoute Ta Fac Radio Campus Orléans. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Xavier du théâtre Fabrique à Pulsion. Bonjour Xavier.
Bonjour à tous.
Alors, tu es donc à la troupe donc, de Fabrique à Pulsion. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce théâtre ?
Alors, c'est ça. Donc, du coup, je suis membre d'un atelier de théâtre d'improvisation. Donc, du coup, Fabrique à Pulsion, c'est une association qui donne des cours avec des professeurs qui sont comédiens au 108 rue de Bourgogne, donc du coup qui est un espace collaboratif d'association. Et donc du coup moi je fais partie du cours d'atelier d'improvisation qui est le lundi soir, donc avec un professeur qui est adorable qui s'appelle Hugo Zermati. Et du coup en fait on va faire un spectacle, c'est demain soir et samedi soir. Donc du coup voilà, si vous êtes partant pour venir voir ce qu'on fait, venir voir ce que c'est le théâtre, si ça vous dit n'hésitez pas à nous rejoindre quoi.
Donc c'est tous les lundis seulement qu'il y a des sessions donc pour le théâtre d'improvisation, ou il y aurait d'autres jours possibles ?
Alors en fait il y a différents ateliers, il y a un atelier de théâtre d'improvisation, un atelier de théâtre sur texte qui me semble le mercredi, et aussi un atelier de théâtre de rue, voilà, donc c'est un petit peu plus inédit, mais il y a vraiment différents cours et n'hésitez pas à aller voir sur internet si ça vous intéresse. Donc c'est Fabrique à Pulsion et il y a différents cours auxquels vous pouvez vous inscrire. Voilà.
D'accord, donc si on est intéressé par le théâtre, on peut directement aller sur le site internet. Il y a un compte Instagram, il y a des comptes Facebook peut-être.
Il y a un compte Facebook, ouais. Et sinon c'est sur internet, donc c'est Fabrique à Pulsion. Voilà.
D'accord, ok. Et le lieu se trouve où exactement? Et ben, si tu nous l'avais dit.
Demain, ça sera à la rue Chansène, voilà, en centre-ville. Et samedi, ça sera au 108 rue de Bourgogne, donc directement. Donc ça sera dans des petites salles. C'est vraiment un spectacle qui est assez en cercle restreint. Donc ça sera une cinquantaine de places. Mais voilà, si vous voulez voir ce que c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à venir. Voilà.
Sur quoi va porter ce spectacle demain soir?
Alors en fait, ça sera donc deux sessions de 45 minutes d'improvisation, parce qu'il y a deux groupes le lundi soir. Et donc du coup, le but, ça va être, encadré par notre professeur, de réaliser des scènes proposées par le public. Donc en fait, il y aura différents tableaux que nous, on a préparés en avance. Donc par exemple, des modes d'improvisation, ça peut être science-fiction, ça peut être western, ça peut être telenovela. Et donc ça va être des modes sur lesquels nous, on s'est entraînés. Mais ça va être au public de décider sur place quel type d'impro ils veulent qu'on fasse. Donc par exemple, on peut mimer, une expérimentation sociale en science-fiction, donc ça peut être ça peut être sur plein de thématiques, c'est assez loufoque, mais c'est vraiment très instantané et pour les personnes qui veulent essayer de sortir de leur zone de confort, qui peuvent être assez timides, etc. Moi, je recommande le théâtre parce que c'est vraiment quelque chose qui permet de grandir et de se découvrir sous un nouveau jour, quoi. Donc c'est vraiment très bien comme pratique, voilà.
C'est parce que justement t'étais timide que tu as fait du théâtre ou pas?
Eh ben, c'est vrai que moi, à la base, j'étais vraiment quelqu'un d'assez timide, assez réservé, qui a pu être assez critiqué par rapport à son corps il y a quelques années, notamment quand j'étais au collège, etc. Donc du coup, le fait de faire du théâtre, ça permet de se reprendre confiance en soi, de s'affirmer et de moins avoir peur du regard des autres. Et c'est vraiment quelque chose que je regarde parce que je fais aussi du théâtre dans une troupe étudiante qui s'appelle Bâtard, voilà, à l'association à la faculté d'Orléans. Donc voilà, il y a aussi une autre troupe dans laquelle je fais des cours. Mais ça vraiment, ça permet de reprendre confiance en soi et c'est vraiment génial comme pratique.
D'accord. Et oui, demain... ça permet. Je rebondis, excuse-moi Chris. Je rebondis, j'avais l'impression d'entendre. Excuse-moi Xavier, mais j'avais l'impression d'entendre ma mère qui, pendant des années, quand j'étais plus jeune, a voulu que je fasse du théâtre pour justement surmonter cette barrière de la timidité parce que j'étais quelqu'un de très timide étant jeune. Et elle m'a pas forcé, elle a insisté pendant quelques années pour que je fasse du théâtre et j'ai toujours refusé. Et avec le recul, je me dis que ça aurait pu être une bonne expérience. Donc voilà, c'est très bien de faire ça. Donc je pense qu'en plus ma mère nous écoute, donc elle va voir que je lui donne raison.
Elle avait raison. Finalement.
Elle avait raison des années après. Je lui donne peut-être raison.
Non mais je rejoins ce que dit ta maman Antoine. Moi aussi, j'en avais fait quand j'étais au collège. J'étais assez timide aussi et réservée. Et ça m'avait vraiment aidée. J'en avais fait pendant 2 ans du théâtre d'improvisation. Donc je trouve que ça libère vraiment et ça permet de prendre la place qu'on mérite, qu'on ne s'autorisait pas avant, par peur, parce que voilà, on avait des craintes par rapport au monde un petit peu autour social. Donc c'est vraiment pas mal, mais est-ce que tu vois toi une différence, voilà, parce que tu es dans deux groupes, tu es dans une troupe donc, de théâtre d'improvisation et de théâtre classique.
C'est ça.
Qu'est-ce que tu vois comme différence entre les deux, de majeur ou pas forcément, quelle différence?
Le théâtre d'improvisation, le but, ça va être de travailler sur la spontanéité, l'instantané. Donc ça va être de ne rien préparer à l'avance, mais de savoir, en fonction d'un thème, se mouvoir de différentes manières, incarner un personnage qui peut être différent. Donc ça va vraiment stimuler l'aspect créatif. Donc ça va être quelque chose de très instantané, comme j'ai pu le dire. Alors que le texte, c'est quelque chose de plus cadré. On incarne un personnage qui est prédéfini par un écrivain, qui est mis en scène par des metteurs en scène. Et donc là, c'est quelque chose de plus cadré, mais ça nous permet d'incarner un personnage. C'est quelque chose d'assez différent, mais sur l'aspect confiance en soi, sur l'aspect prendre la place et essayer de prendre le regard des autres d'une différente manière, je pense que les deux, c'est quelque chose de très important et qui permet vraiment d'aider à prendre confiance en soi et voilà.
Et donc demain il va y avoir des thématiques. Est-ce que tu aurais une thématique de prédilection entre guillemets sur laquelle tu te sens le plus à l'aise? Science-fiction, cow-boy?
Alors, j'avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai que telenovela, donc en fait, c'est un peu, c'est un peu le cadre de la série un peu américaine, très exagérée, où on va prendre un ton en s'appelant par des prénoms un peu américains, en se disant oh Brandon, tu vois.
Oui, un peu à la Friends ou.
Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Et ça, c'est très drôle à jouer.
Ils adorent ça aussi.
C'est très exagéré, c'est très drôle à jouer, et moi personnellement, j'adore. Mais voilà, il y a d'autres thèmes dans lesquels il y a certains de mes camarades de troupe qui sont très à l'aise, comme la science-fiction, etc. Donc je vous invite vraiment à nous voir demain, ça peut être vraiment cool. Et samedi.
Merci Xavier. Excuse-moi Antoine, je clore cette petite interview, ce petit agenda. En tout cas, merci de nous faire partager ton expérience au sein de la troupe. Donc Fabrica Pulsion.
C'est ça. Et la troupe Bâtard Orléans.
Voilà. Et la troupe aussi. Donc on espère que cela vous a donné envie de les rejoindre. Et de notre côté, on passe directement, sans transition, au super jeu de Nico. Bonjour
Nico. Oui, on va jouer aujourd'hui avec un jeu. Bon, j'ai pas pris le générique parce que cette fois-ci, on va se calmer. Mais le jeu s'appelle Je vous donne la réponse, vous me trouvez la question.
Oh là.
Ouais, ok. Wow,
okay. Explique-nous du coup.
Ouais. Toujours avec de la musique ou pas ?
Il y a un thème général, c'est l'année 2023.
Ok.
D'accord.
Donc ce sera des noms, des chiffres, beaucoup de chiffres, des dates. Il faut trouver la question qui correspond. Vous pourrez poser des questions, je pourrais dire oui ou non, et des fois je donnerai les indices.
Ça me fait peur.
Ça peut être de la musique, du cinéma, il y a de la politique, okay. Légèrement. Okay. C'est divers. Alors, on va commencer avec le premier. La réponse
un facile.
Est. Oui. La réponse est le 6 mai 2023. Alors. Petit tapis. 6 mai 2023.
C'est un indice, la musique ?
Non, c'est juste le fond.
Il aime bien cette musique, il la met un peu tout le temps.
Il la met tout le temps.
C'est son kiff.
Alors, mais un attends, indice, c'est un événement majeur de l'année.
Ah, pour la Jeanne d'Arc ?
Non, c'est mondial.
Posez des questions
dans quel thème c'est.
Ça concerne quoi, le politique ?
C'est religieux ou c'est.
Ah, les deux. Politique et religieux.
On est en train de me faire le signe là-bas, que c'est
oui,
le
oui,
couronnement
en région,
de Charles.
En train de
c'est le couronnement de Charles III, qui est le fils de vos rois. Voilà, c'était juste un exemple un peu compliqué.
Okay, le prochain, oui, c'est dur. Ah oui.
Ouais. Le prochain sera peut-être plus facile. Okay. Si je vous dis Flowers, la réponse est Flowers. La question est.
Comment on dit une fleur en anglais ?
Merci Xavier, mais non, c'est pas ça.
Ça aurait pu.
On doit trouver une chanson ou juste non ?
La réponse est Flowers. Vous devez trouver pourquoi Flowers est la réponse.
La chanson de Miley Cyrus ?
Ouais,
oui, mais pourquoi elle marque l'année du 23 ?
Ah bah, vu son titre, elle avait fait le numéro 1 des charts, il me semble, sur Spotify. Elle avait complètement pété les scores. Elle était devenue.
Ah bah oui.
La chanson qui a été le plus écoutée en 24 heures, il me semble, sur Spotify, c'est ça ?
En un an, c'est la musique la plus écoutée sur Spotify au
complètement.
Monde.
Complètement.
Bah, je vous propose de l'écouter, même vite fait, sympatoche. On remarque quand même que quand c'est pas des blank tests, il y en a qui galèrent. Hein. Ça se gère rien. Hein. Ah, Antoine est Chris. Hein.
Voilà, celle-ci, je la connaissais pas du tout.
Oui, mais c'est
Flowers ou quoi ça
Alors, ah non.
La prochaine réponse est.
Voilà.
Virginie Fira. Pourquoi Virginie Fira a marqué l'année ?
Elle a reçu un César.
Oui, ouais. C'est vrai.
Oui, César de quoi ?
Bah, de la meilleure actrice.
Bah, bravo, c'était ça. Mmh. Elle a reçu le César de la meilleure actrice pour, pour son rôle de Mia dans le film Revoir Paris d'Alice Vinocourt.
Oui, c'est vrai.
C'est ça.
Elle voilà, a fait une très bonne interview avec Hugo Décrypte récemment.
Oui, c'est vrai. Elle a fait une bonne interview. Chez Hugo Décrypte, qu'il faut remarquer, qui fait très bon journalisme. Non. Prochaine question ou réponse, c'est 1 milliard. Pourquoi 1 milliard ?
1 milliard.
1 milliard.
Ouais, c'est très fou.
C'est pas le compte en banque de Chris.
Malheureusement.
Deux appartements et ça pourrait le faire. C'est par rapport à la politique, c'est par rapport.
C'est par rapport à un nombre de vues.
Un milliard de vues.
Réfléchissez dans la musique.
YouTube.
Oui. Ah, quelque chose oui, qui a marqué l'année.
Flowers de Miley Cyrus.
Non, mais française. Elle est française.
Ah,
c'est la première française chanteuse à dépasser un milliard de vues.
Je crois que c'est Tal, non ?
Non, c'est Ayana Kamura, non ?
Non, c'est pas Ayana Kamura.
C'est pas Indila ?
La réponse en musique.
C'est pas Indila avec son remix TikTok, ça pourrait être ça ?
Non.
Ah oui, oh, il est fort.
Magnifique.
Il est fort.
Magnifique.
J'ai pensé directement
moi,
à celle-là.
Ah, c'est ouais.
Il y a quand même qui a dit Tal. J'ai rien contre Tal, mais bon. J'avais,
Un jour. Ah, tu vois, je savais pas qu'elle avait dépassé.
Et si, c'est la première française après DJ Snake, et DJ Snake ne chante pas, avoir dépassé 1 milliard de vues sur YouTube avec une seule vidéo.
Merci TikTok.
Merci TikTok. La prochaine, c'est 4. La réponse est 4. Alors, c'est politique.
Moi, j'allais dire les 4 mousquetaires.
Moi, c'est les 4-4.
Les 4, non, c'est politique, c'est 4.
Le nombre de 49-3 dans la semaine, non?
Ah non, non, non. Alors, ça rapporte, ouais, ouais. C'est un rapport avec le gouvernement.
4 mots sous de censure?
Non.
Non. Oh non, il y en a plus que ça.
Il y en a plus que ça quand même. Il y en a une par 49-3, donc il y en a moins 20.
Facile.
Il y a 4. Si je vous dis Marlène Schiappa, Dupond-Moretti.
Ah, 4 mises en examen.
Ah, 4
mises en examen. Il y a 4 mises en examen cette année dans le gouvernement français.
Quel beau gouvernement.
Pour cette année 2023.
Pour cette année. Ils ont mis. Après, en tout, il y en a 13 depuis le début de la. Depuis le début d'Emmanuel Macron, mais c'est pas la question.
Depuis le premier ou le deuxième?
Le premier.
Le premier mandat.
Mais du coup, ça y est, il y a eu 4. Dupond-Moretti.
Ouais.
Pour l'affaire.
Olivier Dussopt.
Olivier Dussopt, Marlène Schiappa et Bruno Le Maire pour le financement des campagnes de primaires
2016. Il n'y avait pas Agnès Buzyn aussi pour cette année?
Ouais, mais t'es pas ministre encore.
C'est ministre non, Agnès Buzyn, c'était après la crise Covid.
Oui, c'était après la crise Covid. Oui, mais son moment d'examen, c'était pas cette année.
Si, mais là, c'est les ministres qui sont en poste en 2022.
Ah, en poste, d'accord.
Prochaine réponse, c'est Zoé Closure. Qui est Zoé Closure? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle a marqué l'année 2023 en France?
Je ne connais pas cette dame.
Elle est française?
Bah en France, oui.
Bah vu son prénom.
Zoé Closure.
Ouais, mais tu vois, je pensais à...
Elle a gagné un concours.
Non. Je sais pas. L'Eurovision des juniors.
Et oui, elle a gagné l'Eurovision junior pour la France à Nice il y a 3 semaines avec cette musique-là. Eh oui, ah oui, on a gagné quelque chose en formant la France.
Et du coup, oui. Bah non, j'allais dire, elle va nous représenter à l'Euro.
Non, c'est Slimane qui a l'Eurovision pour nous, ça.
Ah oui, c'est vrai.
L'adulte.
D'accord, je ne savais pas du tout.
Et voilà, on apprend les choses avec mon jeu pour une fois. Hein. La prochaine réponse, c'est The Eras Tour. Mon accent anglais, pour une fois, j'ai
De quoi
The Eras Tour. Eras Tour.
Eras Tour.
En français, The Eras Tour.
Ah, oui, ça me dit quelque chose.
Ah oui.
C'est le nom d'une tournée d'un artiste.
Oui, c'est une tournée, je pense.
Américaine.
Alors, c'est l'artiste.
Chanteuse américaine.
Ouais, Taylor Swift.
Si.
Oh.
Et pourquoi
je sais ça.
Et pourquoi marque ça?
Parce que chanteuse mondiale. Parce
The Eras Tour est devenue la tournée mondiale au monde. Non, mondiale, oui. La plus rentable de toute l'histoire devant Michael Jackson. Alors qu'elle n'a même pas la moitié de sa tournée. Et elle vient à Paris en mai 2020. Je vous enverrai,
incroyable.
Je vous enverrai un petit reportage.
Oui, c'est vrai que tu y vas. On fera un duplex.
La dame a plié le game directement.
Et c'est aussi la chanteuse la plus écoutée sur Spotify.
Ah ouais.
Globalement. Et surtout avec ce titre-là qu'elle a marqué, c'est avec Summer Cruel. Cruel Summer.
Oh, quel bel anglais.
Wow. Ah, c'est fou.
Du monde du rap.
Et on passe à un petit dernier ou pas?
J'avais juste une petite truc à dire. J'avais vu que Taylor Swift était une des seules chanteuses un petit peu dans le milieu de l'industrie américaine à écrire ses propres chansons.
Oui.
Et à aller faire vraiment toute la partie créative et artistique comparée à beaucoup. Après, c'est pas un blâme pour les autres, mais en tout cas, c'était un petit peu notable de son côté de continuer à faire ça alors qu'elle est devenue une chanteuse mondiale. Donc,
et je peux faire sa pub, mais quand sa tournée, le début de sa tournée a très fortement marché, elle a versé une prime très forte à ses employés de sa tournée. Okay. On fait une dernière? Non? Une petite dernière? Ouais, voilà.
Ça va être compliqué au niveau de notre temps, mais en tout cas,
oui,
merci
nous
Nico.
Reste la roco culturelle à
c'est
faire.
Vrai, c'est vrai.
Exactement.
Merci d'avoir joué. C'est un peu compliqué pour vous,
non,
c'est
un peu dur, mais. Non, mais j'aimais bien ce jeu. Il est pas mal en fait.
Super.
Il y a moins de musique en fait, c'est pour ça qu'Antoine il apprécie.
Je suis aussi fort au blind test.
Je suis fort au blind test d'habitude.
En tout cas, je vois qu'on
progresse
de jour en jour. On voit ça. Ouais, en tout cas, oui, Chris, t'as été un petit peu chou blanc aujourd'hui.
C'est vrai.
Mais on reviendra plus fort. On arrivera encore plus fort la semaine prochaine pour ton nouveau jeu, en tout cas.
Oui,
on espère. Merci, Nico. En tout cas, c'est bientôt la fin de l'émission. Vous êtes toujours bien sur Radio Campus Orléans. Voilà, donc c'est la fin de l'émission. Mais avant, donc c'est la recommandation de la semaine de nos chroniqueurs. Je me tourne vers vous. Quelle œuvre littéraire, cinématographique ou autre voulez nous partager? Je commence avec toi, Chris.
Tu veux que je commence peut-être?
Anthony, il en avait une.
Bon, moi, désolé, mais bon, je vais peut-être replomber l'ambiance, mais on va repartir sur une reco qui s'inspire de la chronique de Luna. C'est le film, je ne sais pas si vous connaissez, Spotlight.
Non, ça ne vous dit rien.
Pas du tout.
Film américain, notamment avec Mark Ruffalo et Michael Keaton, Rachel McAdams, qui retrace dans les années de 90-2000 la première enquête, la toute première enquête sur la pédophilie dans l'église au sein de l'église américaine. Et ils ont notamment gagné le prix Pulitzer en 2003 pour leur enquête. Et en fait, ça a été la révélation du premier scandale sexuel au sein de l'église mondiale. Et après, ça a amené à tous les... à toutes les révélations que maintenant, aujourd'hui, malheureusement, on est amené à connaître. Donc, très bon film.
Ok.
Merci, Antoine. Est-ce que toi, Chris, tu aurais quelque chose ou peut-être toi, Nico ?
Chris, t'as pas besoin. Moi, c'est un film. C'est un film qui est sorti hier. Bon, c'est pas du film à l'auteur. C'est le film Wonka avec Timothée Chalamet. Je l'ai vu hier soir. Il est vraiment pas mal. À conseil, si vous voulez le voir, c'est un film de Noël très sympa. Il y a beaucoup de chants, mais qui sont pas trop... Comme les jeux, ils sont pas trop là pour faire du jeu. C'est vraiment inspiré de l'histoire. L'histoire est touchante. Il y a un peu d'humour. C'est attachant. J'ai même émotif. J'ai même lâché une larme à la fin. Oh. Mais c'est très beau, très joli. Et conseil à aller voir en famille, avec enfants, amis, qui voulait voir. C'est vraiment génial. Et très beau. Et très d'envie... ça donne envie de manger.
Un petit film de Noël comme on aime, quoi.
Ouais, c'est ça.
Okay. Merci Nico.
Mais de rien.
Est-ce que Xavier, toi, tu aurais une recommandation, quelque chose comme ça, que ce soit un livre, un film qui t'a marqué cette semaine ou même la semaine dernière?
Carrément. Je suis allé au cinéma et j'ai vu un très beau film japonais qui s'appelle Perfect Days et qui porte sur l'histoire d'une personne qui est employée pour nettoyer les toilettes à Tokyo, au Japon. Et en fait, le film est une rétrospective de sa vie et du fait de voir et de regarder l'environnement autour de lui et d'apprécier tous les détails de la vie. Voilà, c'est un très beau film.
Merci Xavier. En tout cas, merci à tous. C'est la fin de cette émission. On se retrouve avec la même équipe jeudi prochain. Ne manquez pas l'émission Écoute ta fac tous les mardis, mercredis et jeudis de midi à 13h. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne journée à toutes et à tous.
Bonne journée.
Bonne journée à tous. À la semaine prochaine.
Radio Campus.
Sélection du disque jockey dans 34 secondes.
Le tempo doit être beaucoup plus rapide, comme ça.